au moment où la refondation de l'éducation prioritaire se met en marche, et c'est une des thématiques qu'on va travailler, qu'est-ce qui te semble le point important, sinon essentiel, qui, du point de vue du travail collectif, de la formation, peut être un levier pour ces enseignants et ces élèves de l'éducation prioritaire?
Oui, alors dans la conclusion, on n'aura pas le temps de le voir, mais les stagiaires pourront, à compte d'auteur, aller voir cette excellente plateforme de formation qui est Néopass, où j'avais éventuellement pensé à l'exemple de Guillemette, qui est une jeune enseignante, qui dit, finalement, mes élèves de 3e, ils ne lisent pas chez eux. Je vais prendre le risque de les faire lire en classe. Elle les met devant un texte de Primo Levi, pas facile, devant un A3. Les élèves sont totalement incrédules au début, ils disent, mais vous allez nous faire lire ça, vous, sans entendu, vous n'êtes pas du club, vous ne savez pas où vous êtes. Et le miracle se produit, les élèves se prennent au piège de ce texte magnifique, voilà, sont attentifs, posent des questions. Il n'y a pas eu de baguette magique, hein. Il y a eu le fait qu'elle au cours de son cheminement, fini par comprendre le rapport qu'il y avait entre travail des élèves, travail autonome, travail externalisé et ce qu'elle faisait dans la classe. Pourquoi y est-elle arrivée? Sans doute parce que, d'une part, elle a sa réflexion personnelle et les enseignants non, mais il nous semble de manière plus générale que ça n'est que par le croisement des analyses sur ces points vifs, hein, de l'enseignement qu'on peut arriver à progresser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est à la fois inquiétant, évidemment, c'est que le système scolaire, aujourd'hui l'exercice du métier, montre de nombreuses difficultés, mais ce qui est rassurant, c'est que ces difficultés, si on veut bien les dépouiller de leurs caractéristiques singulières, elles sont globalement les mêmes. Elles sont comment fait-on que des élèves entrent dans la forme scolaire? Et pour ça, il n'y a pas des recettes, mais il y a des manières de construire les séquences. Et on peut accéder à ça par les échanges. Alors ça peut être de multiples natures. Cette plateforme-là, on propose, hein, puisqu'elle va confronter des points de vue de néo-titulaires, des points de vue de chevronnés et des points de vue de chercheurs, avec l'idée que la vérité n'est évidemment ni dans les propos des uns, ni dans les propos des autres, ni absente des propos de quelques-uns ou de quelques autres, mais qu'elle est dans la façon dont ces croisements de regards, avec des années de décalage, avec des angles différents d'analyse, peuvent faire regarder différemment les mêmes objets. Lorsqu'avec Luc Ria, nous avons commencé à concevoir cette plateforme, cela venait d'une enquête que nous faisions qui s'appelait « Entrer dans le métier » où des jeunes enseignants se formaient par la co-observation. Et cette expérience-là, malheureusement très tôt avortée, nous paraissait extrêmement intéressante parce que les jeunes qui s'auto-observaient choisissaient les circonstances de la co-observation. Ils décidaient que c'était dans la même discipline, avec une autre discipline, avec les mêmes élèves, pas les mêmes élèves. Donc ils faisaient varier les choses et ils essayaient de faire émerger le typique. Et ce qui nous a frappé dès le début, c'était l'acuité de leurs analyses et parfois la dureté des propos qu'ils pouvaient tenir les uns sur les autres, des propos, je dirais, de professionnels, propos qu'ils n'auraient jamais souhaité entendre de la part d'une autorité hiérarchique quelconque ou des formateurs de l'IUFM. Dans ce dispositif-là, les formateurs de l'IUFM venaient à la demande des jeunes et répondre à des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre eux-mêmes ou ils leur permettaient de confronter devant eux des hypothèses. Ce qui veut dire que l'idée de formation en établissement me paraît aujourd'hui quelque chose de tout à fait important. On sait que la formation continue lorsqu'elle est faite dans des disciplines hors de l'établissement, avec des gens qui sont un peu enthousiastes, qui sortent de leur bahut ordinaire, mais qui, lorsqu'ils reviennent, se retrouvent avec des gens assez incrédules qui n'ont pas eu la même formation, ça se dilue très rapidement et les effets formatifs sont assez faibles et les effets transformatifs sont eux aussi très faibles. Donc je crois que oui, l'idée de faire des formations en établissement qui ne soient pas des formations d'établissement, parce qu'on pourrait discuter de cette notion, est sans doute une piste tout à fait importante, à la fois parce qu'elle accroît la confiance des formés. On ne leur en raconte pas, on ne leur en compte pas, parce qu'ils peuvent voir comment se comportent les autres professionnels, ils savent, parce qu'on sait dans un établissement tout ce qui se passe. Et puis, le fait de déplacer généralement sa propre pratique et de regarder ce qu'il peut y avoir de typique permet de purger un peu, je dirais, les pincements les plus personnels que les échecs d'enseignement peuvent occasionner, et de regarder tranquillement les aspects les plus professionnels, les plus récurrents, acquérir au fond un soi professionnel, qui n'est pas un soi de l'indifférence, mais qui est un soi dans lequel on sait que si on est agressé par des élèves, par exemple, c'est pas soi-même dans sa personne individuelle qu'il est, c'est un système, une connaissance qui ne passe pas, etc.
Mais alors, l'établissement formateur, l'établissement apprenant, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Mais à quelles conditions? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de genèse particulière, on ne voit pas d'évolution actuelle vers quelque chose qui se développerait dans les établissements, qui ferait que les établissements deviendraient apprenants. Je ne sais pas si tu acceptes le terme.
Oui, moi je l'accepte volontiers. Après, il faut voir ce qu'on met dessous, et je crois qu'on n'a pas non plus beaucoup réfléchi à la question, mais précisément, piloter l'éducation prioritaire, pour moi, c'est sans doute, et d'abord la piloter par la formation, mais pas une formation top-down, comme on dit parfois, qui descend et qui est inadaptée aux situations. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, cette situation-là, parce qu'elle permet de construire des cadres, mais elle doit nécessairement être complétée par des formations de proximité, qui ne soient pas des formations pour des publics que l'on va traiter au rabais, hein, qui soient des formations exigeantes sur le curriculum, qui ne lâchent rien, mais qui s'intéressent aux véritables conditions, aux véritables contraintes de situation. Alors aujourd'hui, c'est guère rendu possible. On peut imaginer que les nouvelles générations d'enseignants, si elles ont été formées à la recherche, ce qu'on souhaite vivement, vont avoir davantage cet esprit de typologie, de problématisation. On peut espérer aussi que les écrits de ces jeunes vont circuler, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de littérature professionnelle. Ce qui est assez dramatique, c'est que les savoirs d'action qui sont parfois découverts dans les établissements disparaissent aussi rapidement qu'ils ont été trouvés. Il y a une forte rotation dans ces établissements, ça n'est fixé nulle part. On pourrait imaginer qu'il y ait une animation académique, pédagogique qui retienne quelque chose de ça, que l'inspection se saisisse aussi de ça. Il serait tout à fait intéressant, il y a quelques travaux, mais pas très nombreux, de regarder ce qu'échangent les jeunes sur les forums extrêmement nombreux dans lesquels ils sont aujourd'hui. Parce que sur le mode de l'horizontalité, ils acceptent de dire des choses qui leur tiennent à cœur. Le problème, c'est que l'institution doit à un moment donné apporter une dimension plus verticale, celle des savoirs établis, celle des exigences d'une institution, et que là, ce raccordement a du mal à se faire parce qu'il se produit aujourd'hui dans des mondes qui sont très largement séparés, voire qui se dénoncent l'un l'autre.
Aussi séparés que le monde des élèves et le monde des enseignants.
Aussi séparés que le monde des élèves et des enseignants. Moi, ce qui me semble, c'est que ça devrait faire un terrain d'entente, c'est que la souffrance des élèves et la souffrance des enseignants, elle a quand même très largement la même matière. Je me dis qu'autour de ça, on devrait pouvoir arriver à tomber davantage d'accord.
Merci Patrick pour avoir passé du temps avec nous, et je crois que les stagiaires apprécieront le temps que tu as pu prendre avec eux. Merci encore à toi.
Merci à vous tous.